88.4.
Des cris, des luttes et des révoltes, de la rage pour survivre et résister, de la rage pour agir et rire de voir ce monde s'écrouler. MDCHN 88.4, salut à tous.
C'est la rentrée à ce qu'ils disent. La rentrée de quoi au fait? On était sorti de quoi au juste? Ils parlent peut-être de la rentrée des dividendes bien grasses pour certains, découlant d'une sortie de crise frémissante. En tout cas, ce n'est pas la sortie de la mélasse capitaliste dans laquelle ils nous plaquent de force la face. Une crise qui leur permet de réorganiser l'esclavage salarial, nous frappant toujours plus fort. Mais ce revirement tactique du pouvoir n'empêche pas l'explosion de nouveaux conflits. Ricaner chez Fayon de tous bords, votre soi-disant place au soleil, on vous la laisse. D'ailleurs, on aperçoit derrière vos forteresses imprenables, paraît-il, une traînée de fumée bien épaisse. Pour quelques-uns, la trêve fut effectivement synonyme de vacances du terrain. Pour d'autres, par contre, un peu partout, la lutte, la résistance et l'action directe n'a pas cessé, voire s'est intensifiée, histoire de tronquer quelque peu les règles du jeu, de l'économie mondiale, et de contribuer, voire d'accélérer, le processus d'implosion de cette société de merde. Comme par exemple, en Grèce, où ça continue de plus belle à l'attaque explosive, c'est les magistrats, la bourse, le consulat du Chili, les sièges de sept partis politiques, députés, ministres qui ont été visés. En Chine, des métallos fument le directeur général d'un groupe repreneur de leur usine. En Corée, en Algérie, en Argentine, au Chili, ça pète. Au Gabon, émeute, saccage d'une tôle et tous les tôlards dehors. Il y a bon la France-Afrique. À La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, les réjouissances se poursuivent. En France, saccage et sabotage divers et variés. Réquisitions dans les supermarchés, attaques aux coques ou à la grenade de bâtiments publics. Émeute dans les quartiers suite aux assassinats par les keufs de jeunes des cités. Aux Pays-Bas, de nombreuses actions contre les centres de rétention et ceux qui les gèrent. En Italie, incendies et banques attaquées. Cocktail Molotov contre l'ambassade de Grèce en Serbie, incendie, dégradation, évasion, émeute en Belgique. En Islande, action de Solido devant les ambassades de France et d'Italie, etc., etc. Comme à chaque rentrée, la contestation citoyenniste concoctée par les marmites syndicales sera chaude, bouillante ou effervescente, c'est promis. Avec pour commencer les hostilités, une randonnée pédestre interpro le 7 octobre. Une mobilisation unitaire afin de crier tous ensemble contre... Contre quoi au fait? Ce coup-ci, le prétexte n'est pas l'opposition de quelque chose, mais pour la journée mondiale de mobilisation des travailleurs pour le travail décent. Berk. Manif indécente. Il n'y a pas de travail et décent encore moins. Alors nous la rentrée, on vous la souhaite, explosive.
Septembre, le grand rite annuel commence. Le travailleur est reposé, batterie rechargée. Les ménages ont le moral, alors on peut commencer par consommer. Rentrée scolaire, impôts, super, hypermarché. La mécanique mortuaire du travail reprend sa place de bourreau. Alors comme chaque année, le patronat social, syndicat et compagnie met en scène sa parodie de lutte pour l'année à venir, en accord bien sûr avec ses confrères du capital. C'est quand cette année, au fait, le grand départ protocolaire est contrôlé ? Début octobre, un samedi de préférence. Ils nous disent que c'est pour mieux renforcer la protestation et rassembler le plus de monde. Mais c'est surtout pour gagner du temps, pour mieux contrôler, cadrer, gérer nos révoltes. Éviter absolument tout débordement de la base, toute spontanéité, en ces temps où les sabotages et séquestrations se multiplient. Ne pas perdre le pouvoir, jusqu'à brader et vendre l'invendable, la liberté dans nos révoltes. 10 000, 12 000 euros pour réaliser qu'on vous a volé vos vies et qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, fermer sa gueule en remerciant le sacro-saint intérêt collectif. Mais la démocratie est là et s'occupe de toi. Tu pourras toujours t'exprimer sur tes inquiétudes et nous en faire part. D'ailleurs, nous vous avons entendu et l'année sera verte, écolo. Et ainsi, nous allons améliorer ton équilibre de vie, bio-bio et Vélib. Tu as peur, citoyen ? Nous construisons des prisons. Tu t'indignes des conditions carcérales ? Qu'à cela ne tienne. Nous allons humaniser la détention en aseptisant toute forme de vie sociale à l'intérieur et nous allons désengorger ces lieux par le bracelet électronique, la prison à la maison. En guise de protestation sociale, on verra encore et encore, une fois par mois, ces foules au pas cadencé et au regard uniforme défiler mollement devant les représentations du pouvoir responsable de notre misère, mais sans la détruire, sans même la voir. Un État démocratique est un État liberticide, car à chaque soi-disant progrès correspond une phase supplémentaire d'enfermement et de contrôle. Ce monde de merde et d'hypocrisie, on n'en veut pas, et d'ailleurs, qui peut en vouloir ? Il est plus que temps de refermer, de laisser les braises de notre rage enflammer ce monde obscur, que les occupations deviennent des saccages, le travail du sabotage et les manifs des feux d'artifice. La fin de ce monde est possible et le plus vite sera le mieux.
Ben bonsoir, bienvenue, bon retour sur NDChaîne. Bonne rentrée, si elle est explosive seulement.
Et on va peut-être juste rappeler que maintenant on va faire des émissions donc les trois derniers lundis de chaque mois. Et en attendant que tout ça explose, en tout cas, ça quand même, depuis le début de la crise, qui est quand même une autre manière pour les patrons de réorganiser l'esclavage salarial, et ben, y a quand même eu, depuis bien 6 mois au moins, plein d'usines où ça a bien pété, où les travailleurs s'en sont pris à leur outil de travail, où ils n'ont pas hésité à séquestrer les patrons, et ça continue. Cet été, il y a eu notamment l'usine de Molex, où il y a eu un blocage assez, assez dur. Il y a eu aussi le port de Marseille, là, qui a été plus localement, là, qui a été saccagé.
Tout début de l'été, ça.
Au tout début de l'été, qui a été complètement saccagé à la hache. Ce qui nous fait rappeler la vieille phrase l'ouvrier se tue à la tâche et le patron à la hache.
Ouais, dans la rubrique de ceux qui se sont battus cet été pendant que la majorité des gens partaient en vacances. À Roissy, donc l'entreprise Servisair, qui est une boîte de transport de marchandises à bord des avions, le PDG a été séquestré par les salariés. Donc je vous explique le contexte vite fait. L'entreprise doit être mise en liquidation, là, je ne sais plus comment on dit. Et les salariés demandent en gros une indemnité de départ plus importante, donc de 30 000 euros. Donc à la suite de cette séquestration, il y a quand même eu 4 salariés qui ont été condamnés à interdiction d'occupation du site et interdiction de gêner la liberté de circulation au sein du site, sachant qu'ils étaient assignés pour séquestration, blocus, troubles illicites et violence morale permanente. Ensuite, voilà, ils ont continué à se faire entendre en bloquant les accès à l'aéroport. Donc, ils ont mis un espèce d'énorme bouchon sur les autoroutes qui donnent accès à l'aéroport de Roissy. Et finalement, sur les 30 000 euros qu'ils demandaient, bah, ils ont obtenu 5 400 euros d'indemnité supplémentaire. Ils ont fini par signer pour une toute petite somme, quoi, mais bon, avec une belle bataille quand même. Ah, alors ensuite. Il y a aussi eu une autre séquestration à l'usine Michelin de Blanzy. Donc, 4 cadres retenus pendant plus de 6 heures. Et là, c'était un peu différent. C'est qu'en fait, le patron a été retenu pour une sanction qui a été imposée à un employé en CDD. Mais il faut savoir que l'employé concerné avait fait l'objet d'une mise à pied de 2 jours pour incompétence, car il avait refusé de travailler sur une machine. Et en fait, on apprend par les délégués syndicaux qui s'expriment sur le sujet qu'en fait, ils ne pouvaient pas travailler sous cette machine parce qu'ils n'avaient pas été formés. Donc voilà, ils ont fait, une belle action de solidarité pour soutenir ce gars, quoi. Ensuite, voilà, vite fait, il y a aussi eu à Malocène, dans le Vaucluse, des dirigeants retenus à la papeterie de Malocène. Pareil pour des indemnités de licenciement. Ah oui, il y a les salariés de JLG aussi, en Lot-et-Garonne, qui, eux, ont obtenu leur indemnité de 30 000 euros par salarié en menaçant de faire sauter des bonbonnes de gaz. Donc voilà, ils avaient mis des bonbonnes de gaz sur des nacelles élévatrices qu'ils avaient entourées de palettes de bois et de bouteilles de gaz. Et donc, voilà, apparemment, la pression a été suffisante pour qu'ils obtiennent leurs 30 000 euros d'indemnité par salarié. Donc voilà, en gros, c'est quelques exemples de luttes qu'il y a eu cet été. Il y en a eu pas mal d'autres dont on parle pas.
Et il y en a encore, mais on en parlera, je pense, de manière plus approfondie la semaine prochaine.
Tout à fait.
Et pour continuer, on peut peut-être embrayer sur la Grèce qui continue à brûler.
Ouais, la Grèce brûle encore, la révolte est encore bien présente et ce n'est pas les élections anticipées qui éteindront les flammes. Le 5 septembre, il y a une grosse manif qui a réuni 10 000 personnes à l'appel de, bien sûr, les grosses confédérations syndicales et autres, mais aussi à l'appel de beaucoup de collectifs anarchistes. Affrontements, bien sûr, qui ont eu lieu avec la police et destruction de plusieurs agences bancaires. Et parallèlement à ça, les actions de EA, Lutte Révolutionnaire, qui sont un groupe qui existe depuis 2003, qui a décidé de rentrer dans la clandestinité et dans la lutte armée, qui a fait, comme on le disait dans le générique, péter une petite bombinette devant la banque centrale d'Athènes. Et il y a aussi eu un attentat à Thessalonique, pardon. Et on ne sait pas trop par qui c'est revendiqué, mais la police estime que ça doit être les anarchistes de la conspiration des cellules de feu. Voilà, la Grèce, c'était pour la Grèce. Et pour continuer dans les rubriques, nous allons faire la rubrique évasion et cavale. Et ça va très vite, juste une bonne cavale à ce mineur qui s'est sauvé de l'EPM de la Valentine pendant une sortie nautique à Sifour-les-Plages et qu'ils n'ont toujours pas retrouvé. Et aussi un petit clin d'œil aux étrangers du centre de rétention de Vincennes. Il y en a trois qui ont tenté de s'évader. Un s'est malheureusement éclaté la cheville à l'atterrissage, du coup il a fini à l'hosto entouré des condés. Mais deux autres ont arraché le grillage et tout simplement tourné les caméras de vidéosurveillance. Et à l'heure actuelle, à ce que j'en sais, ils ne sont toujours pas été retrouvés. Voilà, et pour continuer sur tout le rubrique carcérale, on va vous parler d'une petite mutinerie qui s'est passée le 28 août à la prison de Saint-Gilles en Belgique. Donc, comme on vous dit, là-bas, il y a énormément de luttes dans les tôles. Et souvent un lien qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur, aussi difficile que ça peut être, mais il y en a qui essayent. Et voilà, et donc les prisonniers ont commencé à casser les murs, dresser des petites barricades, ils sont armés de pierres, de barres de fer. Ils ont réussi à prendre les clés d'un des gardiens, à saccager un peu la tôle. Bien entendu, ça s'est réglé assez vite avec l'intervention de la police locale. Voilà, qui les ont un peu massacrés aux chiens et à la matraque. Et il y a un groupe d'individus solidaires qui a écrit un tract à l'adresse des mutinés. Et donc, je vais vous le lire. Ils l'ont passé donc aux visites et ils l'ont aussi passé au lance-pierre par-dessus les murs, par tous les moyens possibles, pour que justement les prisonniers le lisent. Oui, au patator. Voilà, donc je vous le lise. Aux mutins. Ce message est adressé à ceux qui ont profondément perturbé le cours normal des choses à la prison de Saint-Gilles, vendredi passé en s'insurgeant contre les matons et la direction de ces geôles. Nous ne sommes pas un parti politique en nous et nous ne voulons pas récolter des votes. Nous ne vous connaissons pas, nous ne savons pas ce que vous voulez et nous n'allons pas non plus prétendre de le savoir. Nous pouvons donc seulement parler d'actes et de ce que nous voulons. Nous vous adressons ce message pour vous donner une idée de ce que nous ressentons en apprenant que des prisonniers s'attaquent à la prison, ses infrastructures et ses serviteurs. Nous nous sentons liés avec ces actes parce que nous sommes contre la prison et contre la société qui en garantit la continuité. Car la prison n'est pas là sans raison. La prison est un produit d'une réalité quotidienne de l'oppression. Cette oppression est entre autres causée et maintenue par l'État, qui représente le contrôle organisé. L'État sera toujours un obstacle qui nous empêche d'être libres. Mais comme tout le monde, nous ne sommes pas extérieurs à cette oppression. Elle est confirmée et renforcée par les rapports des gens entre eux et certains choix qu'ils font. Celui qui fait le choix de devenir flic ou maton, tout comme le patron ou le contremaître au boulot, l'homme qui frappe sa partenaire, la mère qui traite sa marmaille comme des prisonniers, ou encore l'assistant social qui voudrait nous faire accepter ce monde de merde, cautionne l'oppression en choisissant ce rôle. Les choix de ces rôles sont les fondements de l'oppression et de l'enfermement. Tant que nous n'arrivons pas à attaquer ces choix, tant que nous n'en ferons pas d'autres, les prisons ne seront jamais définitivement rasées. Dans les moments où les négociations cessent, où les rôles sont attaqués et les personnes derrière ces rôles sont confrontées avec les conséquences de leurs choix, nous poussons des cris de joie et nous sommes renforcés dans notre désir ardent de quelque chose de complètement différent. Le même jour où vous avez tout chamboulé dans la prison, les affrontements entre jeunes et policiers ont eu lieu à Molenbeek. Auparavant, la police d'Anderlecht avait été ciblée à plusieurs reprises. Peu de choses ont été dites à propos de l'origine du désordre. Mais ce qui est clair, c'est que certains affrontements ont eu lieu après que la police ait tenté de faire des contrôles d'identité et que d'autres affrontements étaient clairement prémédités et préparés. Plusieurs guet-apens ont eu lieu. D'abord appeler les flics pour ensuite les attendre avec de l'huile sur la route, des pierres et des cocktails Molotov. On pourrait se demander quels sont les liens entre tous ces événements. Et il ne nous intéresse pas de faire de grandes théories sur qui sont ces émeutiers ou sur ce qu'ils désirent. Nous ne sommes ni politiciens, ni assistants sociaux, ni sociologues. Nous aussi, nous avons la rage et nous voulons la diriger pleinement contre ceux qui font perdurer la misère de ce monde. Et c'est pour cette raison que nous sommes du côté des rebelles quand ils déchaînent leur rage contre les défenseurs de l'ordre et leurs infrastructures. Ces moments n'existent pas seulement quand des personnes décident d'attaquer ensemble. Ils existent tout aussi bien dans le refus d'un contrôle d'identité, dans le simple « non » qu'on répond à un maton, dans le petit sabotage au boulot, dans chaque refus du jeu de rôle. Mettons à profit tous ces moments pour y puiser de la force et continuer, que cela nous aide à créer un peu d'espace pour respirer, pour pouvoir continuer à poser les bonnes questions et faire des choix. Vive la révolte, individuelle et collective, quand nous reconquérons notre dignité et quand tout explose.
Je suis le fond de la place, au fin de la place, mange mauvaise mine. Les camions sont vendelés, les palliers sont vendelés. Il est 5h, Paris. Le soleil, Paris. Les travestis vont se raser, les titres sont arrivés.
Voilà, c'était Les Rats, il est 5h, Paris s'éveille et nous n'aurons jamais sommeil. Et pour continuer, juste une petite nouvelle assez rigolote qu'on a trouvée sur Internet, qui nous a fait beaucoup rire, c'est des poulets grillés. Voilà, parce que lors d'un exercice en Belgique, un exercice de formation d'accoutumance au feu et au jeu de cocktail Molotov pour des keufs qui sont appelés à intervenir en manif, eh ben, il y a eu un petit accident.
Oh,
quel dommage. Et donc, les flics ont été balancés dans un mur de feu. Et malheureusement, leurs tenues ont pris feu et plusieurs sont à l'hôpital. Donc, on leur souhaite pas de rétablissement du tout. Et s'ils pouvaient continuer à être cramés et avoir beaucoup de séquelles, et ben, ça nous ferait vachement plaisir.
Opération poulet rôti.
Et ben, pour continuer, avant d'embrayer, parce qu'on va vous parler d'une semaine de discussion et d'action autour des longues peines, on va vous passer un petit montage sur le rôle de la prison dans notre système d'exploitation. 68 344 prisonniers, 68 344 enfermés mis en cage, 68 344 individus qui subissent chaque jour les insupportables humiliations, menaces, insultes, harcèlement, tabassage en règle, suicide. 68 344 individus brisés, cassés, broyés, absorbés par la prison. La prison tue tous les jours, un suicide tous les trois jours, et tous les jours la mort lente de la torture blanche, la mort lente de la torture physique, la mort lente de la torture mentale. 68 344 vies volées, arrachées, sans compter celles des amis, parents et proches. 68 344 vies volées, arrachées dans le silence carcéral pour permettre à des milliards d'autres vies d'être aussi volées, arrachées, détruites dans les exigences de la production, dans les exigences de la soumission. 68 344 pris en otage pour le bon fonctionnement d'un système qui veut que certains se gavent pendant que d'autres s'épuisent. L'enfermement joue un rôle social de repoussoir, l'enfermement produit une peur nécessaire au maintien de la société. Bien plus qu'une simple punition, qu'une simple répression, c'est un ciment nécessaire pour permettre la continuation de ce racket organisé par les patrons et légalisé par les États. Il n'y a pas d'enfermement à visage humain, une cage dorée reste une cage. Ils peuvent y mettre tout le confort imaginé. Il y aura toujours ces portes fermées, ces matons pour dire quoi faire, où aller, ces marches forcées dans des promenades nues au ciel guirriagé, ces putains de miradors comme seul horizon, putain de barreaux, putain de chaînes, putain de murs. Aucune réforme de la prison ne pourra la rendre supportable. Insupportable, c'est d'être enfermé. Alors détruire l'ignoble machine mangeuse d'hommes avec la société qui l'a produite.
Et pour rebondir sur les 68 000 enfermés, 68 000, c'est 68 000 personnes qui sont dans les murs. Mais c'est sans compter tous les gens qui sont mis sous bracelet électronique, qui sont en liberté surveillée, en liberté conditionnelle, et en contrôle judiciaire, et en sursis. Et ça représente à peu près 90 000 à 100 000 personnes par an qui rentrent dans les rouages de la justice. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait 60 000 enfermés, mais qu'avec toute leur humanisation des prisons, les bracelets et compagnie...
beaucoup plus.
Et en fait, le double, voire le triple, et bientôt, nous serons tous enfermés à la maison. Voilà, et du coup, pour clôturer un peu cette rubrique carcérale, on va vous parler de ce qui se passe avec les longues peines. On sait tous que les peines deviennent de plus en plus longues, les peines incompréhensibles, 18, 22, 30 ans et plus, ainsi que les peines dites de rétention, c'est-à-dire que l'incarcération continue alors que la peine est terminée, officiellement terminée. Et en 1789, un truc à savoir, la République considérait que plus de 10 ans était considéré comme pire que la torture. Donc c'était le grand quick de la guillotine. Alors un jour, il y a des bons penseurs qui sont offusqués, et puis ils ont aboli la peine de mort, la soi-disant peine de mort. Mais séquestrer un individu dans une cage pendant des années et des années est bien pire, car la souffrance est une morsure à petit feu. Voilà, donc il y a une semaine qui s'organise en novembre sur le fait que la prison tue et suicide tous les jours. Et c'est l'ARPI qui organise ça, c'est une association ainsi que d'autres collectifs divers et variés. Ça se passe du 2 au 8 novembre, un peu contre la peine de mort lente, des perpètes et des longues peines. Et ça se passe dans plusieurs villes. Il y aura sûrement, et c'est sûr, même un rendez-vous et des projections à Marseille. Donc on vous reparlera quand tous les rendez-vous seront fixés. Et ça sera clôturé le 7 et 8 novembre à Paris. Il y aura une marche, dans la ville. Voilà. Donc je vais juste vous lire un petit passage de l'appel. L'État crée des boucs émissaires coupables et parfois fous, entre guillemets. Des victimes sacrificielles de droit commun ou politisées parquet transmuent la frustration de nos impuissances citoyennes en vengeance lâche contre des individus enchaînés et vaincus. Nous soumettons à la torture dite blanche celle de garder écorchés tout vifs mais vivants des prisonniers et des prisonnières expiatoires. Une longue peine statufie dans et par l'absurdité, pétrifie dans l'abrutissement le prisonnier, le fige dans le passé immuable de son acte, hypothèque son avenir et le condamne définitivement et éternellement à ne pas avoir de futur. D'où l'appel, en 2003, des 10 longues peines du mouroir de la centrale de Clairvaux au rétablissement de l'exécution capitale qui tue, comme la prison, mais au plus vite, malgré l'épouvantable souffrance de la bête d'abattoir. Donc voilà, donc c'est l'ARPI qui organise ça. Vous voulez des contacts, vous pouvez l'envoyer. Il y a une adresse email, c'est arppi@life.fr. Et sinon, allez sur le site de Banque Publique, qui est aussi le site de l'OIP, Organisation Internationale, l'Observatoire, beau lapsus, l'Observatoire International des Prisons, prison.e.org. Voilà, donc on vous en reparlera. La prison tue et suicide tous les jours.
Et sinon, à part le site un peu réformard là, de l'OIP, il y a le site un peu plus intéressant de l'Envolée.
Voilà, c'est organisé avec l'Envolée aussi.
Voilà, hein. Vous tapez l'Envolée sur un moteur de recherche et vous tombez sur leur site. Et je pense que déjà, les analyses seront un peu plus intéressantes.
Ouais. Vous pouvez nous le demander aussi.
Qu'on me pousse à perdre, seul m'importe le verbe et ma horde. Je suis à vie l'ennemi de l'homme. C'est moi l'ennemi, moi qui suis malmené, mal aimé, et qu'on a surnommé le mal incarné. Qu'on a berné toutes ces années, l'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée. Mes chances de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie. Car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser des remparts autour des peaux noires et métissées. Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens l'alibi. Et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé, chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans l'ennemi de l'ordre. Je me méfie quand on m'aborde, et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. On m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, je suis une menace et une nuisance. À l'évidence, la délinquance en puissance. Coriace sous la cuirasse, tenace dans la démence. Une extrême virulence sans classe et élégance. On discute de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race. Mes rues, toi et taudis qui embarrassent. J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse. Que je transgresse et agace en état de grâce. Qu'apparaît stress et détresse là où je passe. Que seul m'intéresse la paresse. Que j'ignore la tendresse. Que j'adore ajouter des crimes à mon palmarès. Que c'est avec le poing que la police me dresse. Et qu'au-delà du périph' nord se trouve mon adresse. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Je n'ai pas l'air qu'on tolère. J'ai l'allure, abonné au bas salaire. La couleur qui ne connaît que la colère. Et pour l'heure, j'ai la figure accolée au malheur. J'endure, brûlure, molar et procédure. Parcours au radar, mirador et coup dur. Le refus des videurs et les règles en vigueur. Le mépris des leaders, les lois et les rigueurs. C'est la guerre contre moi et pour la gloire. Je suis contrarié, sans emploi ni espoir. Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire. Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme et puis me tordre. M'aborde avec une potence et une corde. Et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. L'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde. Et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord.
Voilà, c'était Kazé, une artiste de rap qu'on aime bien. Et voilà, pleine de rage et pas de concession, pas de consensus.
Le voilà. Morceau, ça s'appelait Ennemi de l'ordre.
Ouais, et téléchargez-le.
Et pour continuer, on va passer un petit montage sonore qui a été réalisé à partir de la préface d'un bouquin de Virginie Despentes qui s'appelle King Kong Theory, qui est en fait un bouquin où elle raconte un peu son parcours, comment elle a refusé à un moment donné le rôle qu'on lui inculquait en tant que femme. Et elle raconte aussi comment elle a réussi à dépasser le traumatisme d'un viol. Voilà, donc c'est un témoignage, un parcours qui peut être intéressant à lire. Et donc là, on va vous passer le petit montage sonore.
Elle parle pas mal du rôle de victime de femme, quoi. C'est à peu près systématique en gros. Quoi.
Ouais.
J'écris de chez les moches,
pour les moches,
les vieilles,
les camionneuses,
les frigides,
les mal baisées,
les imbaisables,
les hystériques,
les tarés,
et toutes les esprits du grand marché à la bonne meuf.
Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire,
qui sachent séduire,
d'autres se faire épouser,
et qui sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école.
Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité,
qu'il y en ait des jeunes très belles,
d'autres coquettes et rayonnantes.
Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent.
C'est dit sans la moindre ironie, il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr, je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle, belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir, je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. On a toujours existé, même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement des personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité, mais plus que sympathique, elle m'est essentielle.
Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis le genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on fait pas de gosse. Je parle de ma place de femme, toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme, non séduisante mais ambitieuse, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui me font pas rêver. Il m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi comme ça. Plus désirante que désirable.
Plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus.
Celles qui ont le crâne rasé, celles qui savent pas s'habiller.
Celles qui ont peur de puer.
Celles qui ont les chicots pourris.
Celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux.
Celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles.
Les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches.
Celles qui ont des gros bides.
Celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes.
Celles qui rêvent de faire hardeuse.
Celles qui en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent.
Celles qui ont un gros cul.
Celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler.
Les femmes brutales. Brillantes, celles qui cassent tout sur leur passage.
Celles qui n'aiment pas les parfumeries. Celles qui se mettent du rouge trop rouge.
Celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses, mais qu'en crèvent d'envie.
Celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue.
Celles qui veulent tout montrer. Celles qui sont pudiques par complexe.
Celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater.
Celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui font pas envie.
celles qui ont la peau flasque, des rips vers la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire, mais qui n'ont pas l'argent pour le faire.
Celles qui ressemblent plus à rien.
Celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger.
Celles qui savent pas être rassurantes.
Celles qui s'en foutent de leurs enfants.
Celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars.
Celles qui ne savent pas se tenir.
Aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs.
Ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre.
Ceux qui savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers.
Ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs.
Ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables.
Ceux qui préféraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler.
Ceux qui sont délicats,
chauves,
trop pauvres pour plaire.
Ceux qui ont envie de se faire mettre.
Ceux qui veulent pas qu'on compte sur eux.
Ceux qui ont peur tout seul le soir.
Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante, mais pas pute.
Bien mariée, mais pas effacée.
Travaillant, mais sans trop réussir pour pas écraser son homme.
Mince, mais pas névrosée par la nourriture.
Restant indéfiniment jeune, sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique.
Maman épanouie, mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école.
Bonne maîtresse de maison, mais pas boniche traditionnelle.
Cultivée, mais moins qu'un homme.
Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez.
Celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler.
À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose.
De toute façon, j'ai jamais croisé nulle part.
Je crois bien qu'elle existe pas.
Je crois bien qu'elle existe pas aussi.
Je crois bien qu'elle existe pas.
Et je crois bien qu'elle existe pas.
Je crois bien qu'elle existe pas.
Psst, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Et je crois bien qu'elle existe pas.
Je crois bien qu'elle existe pas. Non, elle existe pas. Non, elle existe pas.
Je crois que je suis amoureux.
Voilà, c'est un extrait de la préface de King Kong Theory de Virginie Despentes, slamé et mis en musique.
Que vous pouvez vous trouver dans toutes les librairies. Et il est petit le bouquin, donc ça rentre facilement dans des poches.
C'est pratique.
Est-ce qu'on passe un morceau de musique?
Ouais, on va mettre un petit morceau de musique.
Tchétchépi.
Io troverò un po' di questo amaro calice, io devo averne molto fino a toccare il fondo, luce spezzata, azzurra, mitra imbracciati neri, i documenti svelti, ho freddo che la luna di nuovo rilassato, se volanzo le mani, tutte sotto controllo, riparto piano piano. Io dovrei bere un po' di questo amaro calice, io dovrei bermi molto fino a toccare il fondo, tattica, strategia, negazione, forza, ho il mondo nella testa. Santo al cielo di Parigi, più canta le visivi della vecchia Bologna, soffrono della presa di palazzi d'inverno, fuori da tempo e storia, via dall'eternità, spiegata e rispiegata.
C'était donc Chichibi. Et bon, bah, ça aurait été bien si on avait le morceau Paranoïa, mais on l'a oublié. Ça aurait fait une magnifique transition avec la rubrique que nous allons faire sur la paranoïa ambiante qu'est en train de construire l'État avec ses sbires, les médias. Donc la fameuse grippe porcine. Attention! Cette grippe porcine qui se trouve à l'entrée de chacun des pays, à l'entrée de chacune des villes, sur le seuil de chacun de nos appartements et autour de chacun de nos corps, elle est prête à nous assaillir, à contaminer toutes les cellules saines de nos corps des cellules saines au passage quand même, rendues saines grâce au nucléaire, rendues saines grâce à la merde qu'on nous fait becter, rendues saines grâce au stress, à la fatigue du travail, rendues saines grâce aux angoisses distillées par ce monde de merde, rendues saines grâce à la peur du flic, la peur de la prison, bref.
Grâce à nos vies.
Attention, donc l'alerte est lancée. Alors, ce qu'il y a d'intéressant de voir dans cette petite paranoïa ambiante...
La petite, elle est quand même mondiale. Hein, enfin.
Ouais, enfin, ouais, la grosse paranoïa ambiante, sans débattre sur la dangerosité ou pas de cette maladie, parce que bon, peut-être qu'effectivement, il y a un risque de pandémie, et ça fait peut-être flipper les États, parce que ça bloquerait bien l'économie, et ça les foutrait un peu dans la merde. Mais en attendant, ce risque, il est mis en scène à des fins répressives, comme toutes les menaces terroristes, écologiques. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir, dans le traitement de cette maladie, comment le pouvoir en place, il utilise à un moment donné une alerte sanitaire, et pourquoi. Et entre parenthèses, au passage, le moment, il n'est pas anodin quand même, puisque c'est quand même à un moment donné où il y a une crise, où l'État perd un peu de son image protectrice, et pendant une période où les occupations de lieux de travail, les séquestrations de patrons et les destructions de l'outil de travail se multiplient. Donc, quelle est la fonction de cette alerte sanitaire ?
Restez chez vous.
L'objectif principal, c'est de vous faire peur. D'une grippe qui a quand même l'air moins violente que la grippe normale, et quand même aussi, au passage, moins violente que ce que subissent des milliers de corps sacrifiés sur l'autel du sacro-saint travail.
Cancer.
Alors, en fait, donc, c'est un travail psychologique où le pouvoir se donne en représentation pour asseoir sa toute-puissance. Le but, c'est de faire peur, comme la menace terroriste. La menace d'épidémie, c'est une technique du pouvoir pour faire ressentir à la population que sans l'État, elle est menacée. Sans la police, sans les armées modernes, sans la pharmaceutique, sans les vaccins, on meurt. Une alerte sanitaire qui s'ajoute à toutes les techniques de gestion des masses par la catastrophe. Parce qu'en fait, depuis Tchernobyl... Eh ben, on est des générations entières qui grandissent avec la menace de la catastrophe à venir. Alors, il y a les fuites du Tricastin, il y a les pénuries énergétiques, il y a les dérèglements climatiques, il y a les catastrophes, il y a la pollution de l'eau, de l'air, de la terre, les empoisonnements, les tremblements de terre. Bref, des catastrophes qui viennent renforcer le sentiment d'impuissance et s'en remettre du coup au savoir scientifique et technologique de l'État.
Du capital.
Un savoir scientifique et technologique qui s'installe jusque dans les moindres petites parcelles de notre organisme. Jusqu'à la plus petite infime. C'est aussi donc un véritable contrôle des corps. Et ouais, au Mexique, ça a été aussi l'occasion pour les autorités de s'attribuer le pouvoir de débarquer comme ça chez les gens. Donc, en plus d'être un moment où le pouvoir, face à un événement qui peut-être lui fait peur, il utilise cet événement pour se donner à voir. Et aussi, il peut accentuer le contrôle sur la population. Parce que les catastrophes, en fait, c'est toujours un bon moyen pour nous mettre une claque de plus dans la gueule et de mettre en place, des mesures encore plus répressives. Et là, je pense notamment à... une petite info qui est circulée un peu dans la radio, sur 20 minutes et tout ça, où il parlait d'allonger la garde à vue, que les gardés à vue ne pourraient voir leur avocat qu'au bout de 24 heures et tout ça, pour éviter la contagion.
Et passer les droits communs correctionnels.
Voilà, bien sûr, bien sûr. Et quand même, là où ils sont forts, quand même, il faut le constater, c'est que quand même, ils arrivent à nous foutre une mise en scène d'un débat citoyen sur la gestion de l'épidémie, avec, comment ça pète, l'autre pute, là ?
Bachelot.
Qui nous parle de débats où chacun viendrait dénoncer les dérives sécuritaires mises en place en cas d'épidémie. Et du coup, quand même, valider ces mêmes mesures. Donc chacun peut donner son point de vue, on est en démocratie, et la boucle est bouclée. Et à cette affirmation de la toute-puissance de l'État s'ajoutent au passage les enjeux économiques colossaux. Et oui, il y a toujours des petits malins qui sont à l'affût de la moindre petite manière de se faire encore plus de blé et qui sont prêts à nous balancer sur le marché juteux de la pharmaceutique des milliers de vaccins.
Le remède miracle.
Voilà, dont on ne connaît absolument pas les conséquences, mais qu'on devrait prendre comme ça parce qu'ils nous l'ont dit de les prendre. Et d'ici là, qu'ils ne nous fassent pas vacciner de force, c'est pas loin. Bref, tout ça pour dire que toute cette gestion sécuritaire n'est que la version plus spectaculaire de la normalité du capital qui, pour mieux nous exploiter, nous fiche, nous parque et nous contrôle.
Et on ne sait pas encore à quoi ça va servir exactement, précisément, pourquoi ils vont se servir de ce grille-pain pour faire passer comme mesure, entre autres répressives, comme on a dit tout à l'heure, mais d'autres. En tout cas, ce qu'on voit déjà qui se passe, c'est la mise en place de puces électroniques partout, dans tout, quoi, aussi bien dans les êtres vivants que dans les objets, que partout, pour nous contrôler partout. Donc, voilà, alors on va vous passer un petit montage qui explique un peu ce que c'est ce phénomène des puces électroniques qu'on appelle les RFID.
Et pour sortir masqués pendant les manifs, ayons tous la grippe, hein.
Entrons tout de suite, comme on dit, dans le vif du sujet.
Ce n'est pas une ville tranquille, mon vieux.
Ah, il y a eu un petit erreur technique.
Technique, erreur. Ah, on n'oublie plus l'antenne.
On reprend.
On reprend. Ah, on reprend pas. Non, on reprend pas.
Ah, nous avons... Et le montage sur les puces RFID, il veut pas.
Montage sur les puces RFID ne veut pas. C'est dommage parce que c'était un bon montage.
Bah, c'est pas grave, on va embrayer sur autre chose.
Moi, sur le contrôle urbain, par exemple.
Ouais.
On peut vite fait faire un petit mot sur le contrôle urbain. Comment, à un moment donné, ils organisent la ville pour qu'elle corresponde mieux aux nécessités de l'exploitation, aux nécessités économiques, c'est-à-dire que tout circule de manière sans aucun obstacle.
Car voyez-vous, dans la nouvelle...
Entrons tout de suite, comme on dit, dans le vif du sujet.
Ce n'est pas une ville tranquille, mon vieux.
L'aménagement urbain, c'est classe contre classe. Ré et pression. Ils rêvent d'une prison haute sécurité qui pue la peur et la soumission. Une prison haute sécurité où chaque déplacement est visionné, enregistré, suspecté, surveillé, contrôlé. Une prison haute sécurité, sans mur d'enceinte ni mirador, sans barbelés ni cages. Une prison haute sécurité à l'échelle de toute une ville, de toutes les villes, la ville. Une prison haute sécurité où rien ne se passe si ce n'est la circulation sans heurts des marchandises et travailleurs vidés, épuisés de leur chair et de leur sang laissés dans l'engrenage du mécanisme social. Une prison haute sécurité où rien ne fait obstacle à la fluidité de l'esclavage salarial. Ce rêve occupe les nuits et les jours de ceux qui nous volent nos labeurs et spéculent sur notre sueur. Eux qui ont l'argent, les structures, l'État, sa justice et ses flics pour nous parquer, contrôler, enfermer et mieux nous exploiter. Ce rêve n'est pas une simple chimère. Cette menace est déjà là dans l'atmosphère oppressante que nous vivons à Marseille comme ailleurs et que nous subissons déjà depuis si longtemps. Mais Marseille résiste et reste a priori une des dernières grandes villes où le nettoyage du centre-ville n'est pas terminé. Il s'agit alors de virer ces pauvres, cette main-d'œuvre bon marché vers les périphéries et de rendre aux puissances économiques ce centre urbain où parader et se faire plus de fric, toujours sur notre dos. L'offensive est lancée et se fait avec d'autant plus de violence qu'elle rencontre des résistances. Ils chassent le marché de la Porte d'Aix, traquent les Roms, crament le marché du Soleil, nettoient, aseptisent, carchérisent. Le marché aux puces dans le collimateur depuis déjà bien longtemps sera éjecté vers les quartiers nord pour construire à la place une lugubre cité de bureaux. Les loyers augmentent, les expulsions font des ravages, la rue de la République se vide de sa population, remplacée par une autre plus respectable, car plus friquée, pour devenir un désert social fait de magasins de luxe. Les attaques se multiplient, les caterpillars et bulldozers avancent, détruisant tout sur leur passage. Dans cette guerre urbaine d'aseptisation et pacification du centre-ville, l'occupation policière massive est une arme redoutable. Construction d'un commissariat à Noailles, contrôle d'identité dans la rue, le métro, la gare, rafle à Noailles, Belzins, contrôle routier. Les patrouilles passent et repassent, quadrillent les rues, les sirènes hurlent, les rondes se multiplient. Les vigiles guettent, les bacs jouent les cow-boys et se prennent pour Robocop, les militaires et CRS arborent ostensiblement le matos pour nous défoncer la gueule. Les baumettes se remplissent, les hôpitaux psychiatriques débordent et le centre de rétention avale, broie et expulse chaque jour des dizaines de sans-papiers. Mais ce n'est jamais assez pour eux. En 2010, c'est près de 300 caméras qui scruteront chaque mètre carré de nos existences grâce à un nouveau service de surveillance en construction avenue Saint-Lingros, d'où nous serions épiés 24 heures par 24 par une vingtaine de voyeurs morbides en lien permanent avec le commissariat et sa horde de porcs. Déjà 3000 nous pourrissent la vie, matraquent, gaz, asphyxie, et en plus ils vont être aidés par une centaine de nouveaux venus qui vont envahir les rues de Marseille, finir de gâcher un paysage déjà morne et de nous terroriser. Un énième bureau de police est en projet aux réformés. Ils ont un rêve, soyons leur cauchemar. Contre l'occupation policière de nos vies par le travail et les forces de l'ordre. Occuper la rue, ne pas circuler, résister aux expulsions, graffer les murs trop lisses, niquer les néons et miroirs, crever les yeux des caméras et les pneus de leurs vélos libres de merde, éclater les horodateurs, désherber leurs pelouses, des coups de marteau sur les distributeurs de billets pour tram, aujourd'hui transport gratuit, bousiller l'arrogante et morne déco. plein de petits actes de résistance à inventer pour les faire passer à la caisse, les faire payer un peu de ce qu'ils nous font endurer et détruire ce qui nous détruit.
Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ? Il faut défendre.
Et voilà,
notre ville.
Ils pourrissent notre ville. Et en fait, ouais, ce petit montage passé pour montrer que en fait, cette gestion sécuritaire, c'est que vraiment que la normalité du capital, elle se fait tout le temps. Tout le temps, on le vit tout le temps, tous les jours, dans nos villes, sur nos lieux de travail, à la CAF, au RMI et tout ça. Et ah oui, on m'annonce en technique que ce qu'on voulait passer sur les puces RFID, donc qui est aussi une autre manière de contrôle, et ben finalement fonctionne. Le virus a été tué, donc on va vous l'envoyer.
Merci Roselyne.
Toujours de nouvelles menaces qui planent sur la forteresse Occident pour justifier l'intensification permanente du contrôle. Alors, toujours de nouveaux moyens de nous pister, de nous traquer, de nous surveiller. Les manières de nous pourrir la vie se diversifient. Science et technique participent à cette invasion de chaque espace de notre quotidien, de chaque instant de notre existence. Le nouveau marché porteur de l'industrie électronique, dont tous les spécialistes du contrôle espèrent tirer des bénéfices considérables, ce sont les nanotechnologies, les sciences de l'infiniment petit, et notamment, une de leurs nombreuses applications, les puces RFID. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention de plus aux mains de l'État ?
Au pré, avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable, le numéro d'identification X0723A s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Grâce à l'interface sans fil Bluetooth, le lecteur transmet directement à l'ordinateur les données concernant X0723A. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le propriétaire et en le scannant avec un lecteur portable, d'identifier à tout moment X0723A. L'animal est entré dans le système, il a le droit d'exister.
RFID. Radio Frequency Identification en anglais. Qu'est-ce que c'est ? La traduction sur quelques millimètres carrés d'un désir totalitaire de tout suivre, pister, détecter, contrôler, surveiller électroniquement. La chose ressemble à une mini-étiquette, d'où son nom d'étiquette intelligente ou smart tag, et se compose d'une puce et d'une antenne. Chaque étiquette est unique, donc distingue l'objet ou la personne qui la porte parmi tous les autres. Et est lisible à distance, à travers l'épaisseur de la peau, d'un emballage, d'une couche de neige épaisse, etc. C'est l'intérêt principal des RFID pour leurs utilisateurs. Recueillir et stocker des millions de données, une richesse dans la société de l'information, une source de pouvoir dans la société de domination.
Le manteau marque Tex, taille 42, numéro 9, 8, 7, 3, 2, 8, 7, 6, 5, acheté le 12, 11, 06, à 17h08 à Carrefour Mélan, payé par la carte bancaire de Gisèle Chabert de Grenoble et passé dans le champ du lecteur de Grand Place aujourd'hui à 8h42, hier à 11h20 et lundi dernier à 9h05. Il est associé au livre « 30 recettes pour maigrir en famille » emprunté à la bibliothèque du centre-ville par Gisèle Chabert et à la carte Avantag de Sonia Chabert.
Pucer un objet, un animal, une personne, les transforme en machines. Facile à relier entre elles pour créer un réseau total, un filet transmetteur d'informations en continu. Il ne suffisait pas que nous fussions connectés et joignables en permanence par téléphone portable, mail, SMS ou Wi-Fi. Avec les RFID, nous devenons nous-mêmes des objets communicants. Des objets que nos maîtres suivent à la trace, dont ils analysent les comportements, contrôlent les mouvements pour mieux les gérer et pour mieux les punir.
Grenoble. Place de la gare, le 12-03-08, à 14h11. Manifestation des étudiants. Présence des individus X. Carte d'identité numéro 9-8-7-2-9-8-7-2. Z. Carte d'identité numéro 6-2-9-0-2-U-7-4. Y. Carte de séjour numéro 8-7-A-H-E-8-7-9-8-2. Détecté en tête de cortège. Attention, détection de l'individu G. Carte d'identité numéro 8165398837. Piché pour participation au fauchage d'un champ d'OGM dans la Drôme le 27 juillet 07.
Nous pister à travers nos objets est instructif mais incertain. Pour s'assurer que vous êtes placé à Grand Place hier soir, il faut pucer vos papiers d'identité. Les États-Unis exigent des étrangers le passeport biométrique et électronique. Elle aussi, la France prépare sa carte d'identité électronique, dite INES, avec des données biométriques dans une puce RFID. Fini les contrôles d'identité humiliants. Voici les contrôles d'identité sournois et à distance. Sa mère.
Carte d'identité.
Carte vitale.
Fichier automatisé des empreintes digitales.
Fichier national des empreintes génétiques. Nous ont accoutumés au fichage systématique de la population et à l'électronisation du contrôle.
D'autres exemples ?
Le portable de Nokia avec lecteur RFID pour inventorier les objets tagués autour de nous et transmettre ces données à distance.
Le dispositif Person Tracking Unit d'IBM permettant de scanner les étiquettes sur les éléments d'une foule pour suivre les mouvements dans les lieux publics.
Les billets de la Coupe du Monde 2006 avec mouchard pour faciliter le suivi des supporters.
Dans les bibliothèques françaises, on équipe les livres. L'enregistrement de vos emprunts se fait au passage du portique de sortie.
Dans les collèges américains, on contrôle la présence et le comportement des élèves par leur carte électronique.
Certaines communes, dont Paris, pucent leurs arbres pour mieux les gérer.
Mais encore.
Suivi des bagages dans les aéroports.
Identification des véhicules, des produits de luxe et des médicaments.
Ouverture contrôlée des portes électroniques.
Remplacement des badges.
Passeport.
Visa.
Carte d'identité électronique.
Gestion des livraisons pour l'armée.
Traçabilité alimentaire.
Puçage des animaux. Et des humains, on y vient.
Et des humains, on y vient. Et des humains, on y vient. Et des humains, on y vient.
Comme des grenouilles dans l'eau froide, nous supportons la hausse progressive de température, sans réaliser qu'elle nous ébouillante aussi sûrement qu'un plongeon dans un bain brûlant. Avec le puçage électronique, voici bientôt les 100 degrés.
Alors, techniquement, c'est donc un dispositif électronique composé d'une puce qui communique à distance par radiofréquence. Le souci, c'est que ce nouvel outil de transparence totale envahit à la vitesse de la lumière toutes les sphères de notre quotidien. Cette puce peut contenir toutes sortes de données numérisées. Et notamment, elle peut stocker les informations biométriques qui permettent de nous identifier, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques physiques d'une personne, voix, visage, iris, empreintes digitales, considérées comme uniques et théoriquement infalsifiables. Le puçage des papiers d'identité se généralise. De nombreux pays se sont déjà dotés de cette nouvelle formule. La réglementation européenne l'impose, et le passeport biométrique à puce a donc fait son apparition en France fin juin 2009. Dans la logique d'un contrôle social toujours plus efficace, pourquoi ne pas faire en sorte que des individus puissent être identifiables et repérables géographiquement à tout moment et de manière automatique? Et tout ça sous couvert de démocratie, de respect des libertés individuelles et de traitement sécurisé des données à caractère privé. Ainsi, nous aurons comme toujours la douce illusion que nos libertés sont bien protégées. Comme on l'a entendu, la France possède aussi son projet de carte d'identité biométrique, intitulé INES, Identité Nationale Électronique Sécurisée. À grand renfort d'éducation propagande, l'idée absurde devient en quelques années une évidence. On commence à équiper les cantines scolaires, les piscines, les bibliothèques. Les outils du contrôle permanent deviennent doucement des éléments de notre quotidien, ludique, si possible, et tellement pratique. Faut que ça rentre dans les mœurs, parce qu'il y a moyen de se faire pas mal de blé, parce que la traçabilité totale des marchandises et des populations, c'est un vaste marché. On peut citer par exemple le groupe français d'électronique de défense SAGEM, qui numérise les empreintes digitales pour leur stockage dans la puce des passeports biométriques. Ou encore l'entreprise américaine Applied Digital Solutions, qui se spécialise dans l'implantation de la puce directement sous la peau. De nombreux candidats en Europe, en Russie, aux États-Unis, en Amérique centrale ou en Asie l'ont déjà adopté. Indispensable pour ouvrir son portail à distance ou payer ses merdes sur Internet. Ainsi, les dispositifs de gestion et de mouchardage s'ajoutent les uns aux autres. Les technologies ne sont pas neutres. Elles sont indissociables du monde qui les produit et qu'elles viennent renforcer. Mais la surenchère permanente des moyens de contrôle, cette espèce de course à la surveillance généralisée, a surtout pour objectif de disséminer la peur. Elle fonctionne plutôt sur ses capacités de dissuasion que sur son potentiel répressif. L'enjeu sécuritaire, c'est la construction d'un imaginaire collectif qui repose sur l'impression qu'ils sont partout, qu'aucun de nos gestes ne leur échappe. L'idée générale de ce contrôle, c'est de passer de la nécessité de contrôler les populations à l'autocontrôle de chacun sur lui-même. Alors, ne nous laissons pas baratiner. Le système a ses failles et que vive le bricolage. Dans son petit paquet en alu, RFID ne fonctionne plus.
Et bien, on va se voir la semaine prochaine sur NDChaîne, parce que maintenant, NDChaîne, c'est 3 lundis d'affilée. Donc, 3 lundis sur 4 dans un mois. Et voilà.
Juste avant de finir, je voulais rappeler que Radio Galère fait un appel à souscription. Donc, j'ai pas le papier sous les yeux pour vous expliquer vraiment en détail comment ça se passe.
Radiogalère.org.
Mais bon, en gros, voilà, si vous voulez soutenir la radio, que son indépendance, ça passe aussi par les sous, et ben c'est pas mal de souscrire à cet appel. Donc, vous en saurez plus en regardant sur le site de Radio Galère, radiogalère.org. Et voilà, on vous en reparle un peu plus la semaine prochaine avec le papier sous les yeux.
Bye bye.
À plus. Septembre, le grand rite annuel commence. Le travailleur est reposé, batterie rechargée. Les ménages ont le moral, alors on peut commencer par consommer. Rentrée scolaire, impôts, super, hyper marché. La mécanique mortuaire du travail reprend sa place de bourreau. Alors comme chaque année, le patronat social, syndicat et compagnie met en scène sa parodie de lutte pour l'année à venir, en accord bien sûr avec ses confrères du capital. C'est quand cette année le grand départ protocolaire est contrôlé? Début octobre, un samedi de préférence. Ils nous disent que c'est pour mieux renforcer la protestation et rassembler le plus de monde, mais c'est surtout pour gagner du temps, pour mieux contrôler, cadrer, gérer nos révoltes, éviter absolument tout débordement de la base, toute spontanéité, en ces temps où les sabotages et séquestrations se multiplient, ne pas perdre le pouvoir, jusqu'à brader et vendre l'invendable, la liberté dans nos révoltes. 10 000 ou 12 000 euros pour réaliser qu'on vous a volé vos vies et qu'il ne vous reste plus qu'une chose à faire, fermer sa gueule en remerciant le sacro-saint intérêt collectif. Nuance. La démocratie est là et s'occupe de toi. Tu pourras toujours t'exprimer sur tes inquiétudes et nous en faire part. D'ailleurs, nous vous avons entendu et l'année sera verte, écolo. Et ainsi, nous allons améliorer ton équilibre de vie. Bio-bio et Vélib oblige. Tu as peur, citoyen? Nous construisons des prisons. Tu t'indignes des conditions carcérales? Qu'à cela ne tienne. Nous allons humaniser la détention en aseptisant toute forme de vie sociale à l'intérieur et nous allons désengorger ces lieux par le bracelet électronique. La prison à la maison. En guise de protestation sociale, on verra encore et encore, une fois par mois, ces foules aux pas cadencés et au regard uniforme défiler mollement devant les représentations du pouvoir sur notre misère, sans même les voir, sans même les détruire. Un État démocratique est un État liberticide, car à chaque soi-disant progrès correspond une phase supplémentaire d'enfermement et de contrôle. Ce monde de merde et d'hypocrisie, on n'en veut pas. Et d'ailleurs, qui pourrait en vouloir? Il est plus que temps de refuser de laisser les braises de notre rage enflammer ce monde obscur. Que les occupations deviennent des saccages, le travail du sabotage et les manifs des feux d'artifice. La fin de ce monde est possible, le plus vite sera le mieux.
Monde de merde, ta mère.
Riot.